en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Thibaut Damour, bonjour.
Bonjour Élodie.
Merci d'être avec nous pour cette émission qui s'appelle En habit vert. Avec vous, pendant une heure, nous allons parler d'Albert Einstein. Car il faut le savoir, en 1933, Albert Einstein a été nommé associé étranger de l'Académie des sciences. Alors, dans le cadre de l'année mondiale de la physique qui a eu lieu en 2005, il nous a paru normal d'évoquer ses recherches, ses découvertes, mais également l'homme qu'il a été. Mais avant de replonger un siècle en arrière, je vais tout de même vous présenter Thibaut Damour pour ceux qui ne vous connaîtraient pas. Vous êtes professeur permanent à l'Institut des sciences, des hautes études scientifiques. Donc vous êtes professeur permanent à l'Institut des hautes études scientifiques, membre de l'Académie des sciences. Et vous avez rédigé un ouvrage sur le célèbre physicien intitulé « Si Einstein m'était compté », paru en 2005 aux éditions Le Cherche Midi. Alors, physicien, théoricien, vous êtes mondialement connu pour vos travaux sur les trous noirs, les pulsars, les ondes gravitationnelles et la cosmologie dans la théorie des cordes. Vous pourrez peut-être nous en dire quelques mots un peu plus tard dans notre interview. Et dans ce livre, vous mettez en avant en quoi finalement les travaux d'Einstein servent encore aujourd'hui aux travaux des physiciens comme vous. Nous allons donc voir ensemble comment Albert Einstein a révolutionné la physique. Nous allons également aborder l'intérêt que porte Einstein à la philosophie. Et puis, un aspect qui est donc un aspect un peu moins connu de sa personnalité. Mais tout d'abord, nous allons évoquer l'homme en toute simplicité. Avant d'être un homme, il a été enfant. Nous allons donc aborder son enfance, Thibaut Damour. Alors, donc, nous sommes en 1879. Et donc, la famille Einstein s'agrandit d'un petit garçon prénommé Albert. Et c'est une famille juive, je crois. Mais Albert est athée.
Oui, c'est le 14 mars 1879, oui. Précisons. La famille Einstein était d'origine juive, mais elle était complètement assimilée dans la société allemande et ne pratiquait pas du tout les rites juifs. Donc Einstein, pendant longtemps, n'a pas eu d'éducation religieuse à la maison, même si plus tard, comme il allait à une école catholique, il a eu aussi à la maison un enseignement lié au rite juif.
Il était installé à Munich, enfin la famille Einstein était installée à Munich.
Donc après une naissance à Ulm, effectivement, au bout d'un an, très rapidement, toute la famille déménage à Munich parce que le père, qui n'était pas d'ailleurs extrêmement doué dans les affaires, voulait s'installer à Munich pour travailler pour créer avec son frère Jacob une entreprise d'électrotechnique. Il voulait développer l'électricité. C'était l'époque où la société commençait à avoir l'électricité dans les bâtiments, dans les maisons individuelles. Et ils ont même eu de fortes commandes à Munich, comme par exemple, ils ont fait l'électricité pour l'Oktoberfest, la grande fête de la bière, une certaine année. Donc pendant un certain nombre d'années, ça a bien marché, ils gagnaient bien leur vie et ils vivaient dans une grande maison aux environs de Munich.
Donc la famille allemande, et donc Einstein va grandir comme tous les enfants. Et chose un peu curieuse, c'est qu'au départ, Einstein n'est pas un enfant précoce, il se met à parler très tard.
Oui, ça n'était pas un enfant précoce au sens habituel, c'était un enfant lent, mais au sens de réfléchi. Il semble qu'il n'était pas retardé du tout, mais il ne voulait pas faire d'erreur, par exemple, en parlant. Et donc, il a attendu longtemps avant de dire ses premiers mots, parce qu'il ne voulait pas dire des choses fausses. Et puis, ensuite, à l'école aussi, il était quelqu'un de profond, qui, dans les matières qu'il aimait, comme mathématiques et physique, réussissait très bien. Et s'il voulait se donner la peine, il pouvait réussir partout, mais il y avait des choses qui ne l'intéressaient pas tellement. Mais c'était pas un esprit extrêmement vif et brillant, comme on voit certains scientifiques ou certains génies, dont on voit immédiatement qu'il y a une très grande rapidité d'esprit. En fait, tout le long de sa carrière, ce n'est pas la rapidité d'esprit qui caractérise Einstein, mais sa profondeur. Il gardait le même problème, il y pensait pendant très longtemps.
En fait, il a un caractère, dès le départ, très affirmé. Il refuse de se plier à des exercices que lui demandent ses professeurs, des exercices de mémoire, parce qu'il les estime inutiles, par exemple. Donc très tôt, il sait ce qu'il veut.
Effectivement, et aussi il détestait le côté quasi militaire de l'enseignement en Allemagne. Ça le hérissait complètement, à tel point que d'ailleurs il va quitter l'école avant de finir ses études secondaires.
Alors, on va venir à un petit moment clé de son enfance, qui est que son père, tout simplement, lui offre une boussole en guise de jouet. Et je crois que ça va jouer beaucoup dans la suite.
Oui, Einstein avait 4 ans, il était malade, au lit, et un jour, pour le distraire, son père lui apporte une boussole. Et Einstein est très surpris, le jeune Einstein est très surpris de voir que, même s'il bouge le cadran de cette boussole, l'aiguille aimantée, donc, indique toujours la même direction. Et là, il réalise qu'il y a un ordre dans l'univers. Il a l'intuition que de cette espèce d'ordre caché dans l'univers, puisque cette aiguille, elle indique une structure, mais une structure qu'on ne voit pas. Et ça a été un déclencheur important pour toute sa vie, de se dire que l'univers, il se passait des choses qu'il fallait comprendre. Au-delà des apparences, il y avait une espèce d'ordre caché, et toute sa vie a été d'essayer de comprendre cet ordre caché.
Alors Albert Einstein était aussi musicien, je crois, au départ, quand il était enfant, comme beaucoup d'enfants, je suppose, d'une classe moyenne, qui jouait du violon.
Même si au début la mère d'Einstein était une excellente pianiste, et donc c'est elle qui a poussé toute sa famille à faire des études musicales. Et au début, Einstein qui, comme on le disait à l'instant, n'aimait pas la discipline imposée, n'aimait pas le violon parce que il a eu des professeurs qui l'obligeaient à faire des gammes, à apprendre des choses, et ça il détestait. Et le jour où il s'est rendu compte que les sonates de Mozart étaient très belles et qu'il pouvait jouer avec sa mère qui jouait très bien du piano, faire de la très belle musique. Alors là, quand il a vu la beauté de la musique de Mozart, il s'est mis à travailler comme un fou, mais les morceaux eux-mêmes de Mozart et jamais les exercices. Et depuis ce jour-là, d'abord il a regretté de ne pas avoir mieux travaillé son violon avant, et il a commencé à travailler son violon et il a gardé l'habitude de jouer du violon et de faire la musique de chambre très tard dans sa vie. C'est seulement dans les dernières années à Princeton qu'il a arrêté le violon parce qu'il trouvait qu'il jouait moins bien et qu'il s'est mis à jouer du piano, qu'il jouait aussi, d'ailleurs pas très bien, mais au moins on fait moins de fausses notes qu'au violon.
Le violon, c'est un instrument de musique où on est un peu seul. Est-ce que Albert Einstein était un enfant qui était seul ?
Il avait peu de camarades. Il avait un lien très intense avec sa sœur Maya. Et il y avait le cercle de famille, mais pendant ses premières années au lycée, je pense qu'effectivement, il n'a pas développé des amitiés pour toute la vie. En revanche, quand on reprendra sa vie un peu plus tard, on verra qu'il a eu des amis qu'il a gardés toute sa vie à partir de l'adolescence. Donc c'était quelqu'un qui, à la fois, gardait une certaine distance par rapport aux autres êtres humains, mais qui était capable d'une très grande chaleur pour certains amis avec qui il partageait des choses profondes comme la musique, un certain intérêt intellectuel pour la philosophie, pour la science, etc.
Alors à 15 ans, il se retrouve seul à Munich. Ses parents sont partis pour faire des affaires en Italie, je crois.
Oui, car les affaires donc du père Hermann et de l'oncle Jacob à Munich avaient périclité. En fait, ça ne marchait plus parce que leur boîte était sans doute trop petite et des plus grandes boîtes d'électrification leur avaient pris tous les marchés. Et donc, ils se sont dit « Ah, mais dans le nord de l'Italie, l'électrification commence juste à se faire, donc c'est un domaine qui commence juste, allons-y. » Et donc, le père est parti avec l'oncle à Pavie, à Milan et à Pavie. Ils ont loué une grande maison à Pavie, en laissant Albert seul à Munich, aux soins d'une tante, je crois, mais pour finir ses études secondaires en principe. Mais assez rapidement, le jeune Albert s'est trouvé très mal tout seul à Munich, sans le cadre familial, avec l'ambiance quasi militaire des études, surtout quand on s'approche du baccalauréat en Allemagne. Et en fait, il a fait ce qui est une folie complète, c'est-à-dire il est parti un jour, à 15 ans et demi ou 16 ans, je ne sais plus exactement l'âge, en quittant tout, en se faisant faire un certificat médical faux,
bidon
pour aller rejoindre sa famille. Il a débarqué comme ça à Pavie et la famille était catastrophée parce que le père était donc d'une famille juive assimilée qui avait toujours désiré s'élever dans la société, mais il voulait faire des études universitaires élevées. Et en fait, il avait dû s'arrêter, faire des études d'ingénieur, et puis gagner sa vie comme ingénieur électrotechnicien. Mais il espérait, comme il avait vu que son fils était doué, que son fils allait réussir dans le système scolaire allemand. Et donc, pour la famille, c'était une catastrophe, vraiment, de le voir arrêter juste avant le bac, et donc compromettre toutes ses chances d'entrer à l'université, de continuer. Et là, on ne sait pas qui exactement dans la famille a eu l'idée. Est-ce que c'est Albert qui en avait entendu parler ou un oncle qui connaissait tout ça, que à Zurich, en fait, on pouvait aller à l'école polytechnique de Zurich si on passait l'examen d'entrée en Suisse et on n'avait pas besoin d'avoir un diplôme officiel, genre baccalauréat, à la fin d'études secondaires.
Le bac n'était pas obligatoire.
Il fallait passer juste un concours d'entrée. Et donc ça, c'est ce que Albert et toute la famille décident. Il reste entre 6 mois et 1 an avec sa famille en Italie du Nord, qui d'ailleurs, soit dit en passant, était pour lui une découverte fantastique, parce qu'après l'Allemagne rigoriste, là, il y avait le côté Italie, plaisant. Il fait d'ailleurs beaucoup de musique, il fait des grandes balades à pied, il a des petites copines italiennes avec qui il fait de la musique.
C'est un peu la romance. Hein.
Oui,
c'est
la romance,
beau,
mais en même temps sérieux, c'est-à-dire il prépare ses examens, il lisait des livres très en avance sur ce qu'il faisait déjà au lycée pour préparer son entrée à Zurich. Et il va à Zurich et il passe l'examen d'entrée à l'École Polytechnique Fédérale de Zurich. Et il a d'excellentes notes en mathématiques et en physique, mais des notes éliminatoires moins bonnes dans d'autres matières,
dans les langues, l'histoire.
Et donc on lui dit, bon, vous êtes très bon. D'ailleurs, les gens prennent des risques. Enfin, on lui dit explicitement, on serait content de vous prendre l'année prochaine au prochain concours, mais il faut que vous passiez un examen en Suisse, fin des études secondaires, et aller à l'école cantonale d'Aarau pour finir vos études secondaires. Et après, vous serez à même de passer un deuxième concours. Et c'est ce qu'il a fait. Il a passé 1 an à Aarau, dans une famille d'ailleurs très libre d'esprit. Et il a toujours considéré comme un espèce de père, un parrain, papa Winteler, chez qui il logeait. Et 1 an après, il se présente à l'examen. Et là, cette fois, il a des bonnes notes à peu près partout.
Donc, il est pris.
Y compris même en français, d'ailleurs, parce qu'il y a une note en français qui n'est pas si mal que ça. Et il est pris. Et là, il fait 4 années d'études très haut niveau pour devenir ingénieur ou enseignant en physique théorique et mathématiques.
Alors comment se passent ces 4 années d'études? Parce que bon, on vient de voir un peu qu'Albert Einstein faisait quand même bien ce qu'il voulait. Quand il décidait de partir du collège, il se faisait faire un certificat médical, il apprenait ce qu'il voulait. Comment se sont passées ces 4 années d'études? Est-ce qu'il était un élève discipliné?
Non, le mot discipliné, effectivement, ne s'applique pas à Einstein. D'abord parce qu'il avait sans doute, il avait lu des livres à l'avance, il s'était renseigné sur les problèmes importants de la physique moderne, et il s'est rendu compte que, alors qu'à l'École Polytechnique, les cours de mathématiques, par exemple, étaient d'excellents, de très très haut niveau, qui avaient d'ailleurs, à la suite de mouvements sociaux, l'École Polytechnique avait recruté quelques-uns des meilleurs mathématiciens qui n'avaient perdu leur poste à gauche et à droite, quelqu'un comme Hermann Minkowski. Mais Einstein, donc là, les cours de mathématiques étaient absolument top niveau. Mais en même temps, Einstein avait déjà compris que c'était pas les mathématiques qui l'intéressaient, que son intuition ne lui permettait pas de comprendre dans le domaine mathématique ce qui était important, de séparer ce qui était important de ce qui était auxiliaire. Alors qu'en physique, il comprenait intuitivement qu'est-ce qu'il y avait de vraiment important. Et en physique, il avait déjà travaillé, lu des livres et des articles modernes, et il s'est assez rapidement rendu compte que le cours de physique du professeur principal, R. professeur Weber, était pas très à la page, qu'il n'apprenait rien de nouveau, et que c'était plutôt des vieilleries pour lui. Et donc, assez rapidement, il a séché les cours. Et c'est ça, ça va être son problème. Il a travaillé de son côté. Il allait à la bibliothèque, il passait du temps à lire les derniers articles parus. C'est là où, par exemple, pendant qu'il était à l'école, il a sans doute lu les articles de Max Planck, qui étaient sortis en 1900, très importants pour la suite. Donc tout ce travail de lecture, de livres, d'articles, est essentiel pour la suite. Et il va aussi beaucoup au laboratoire, parce qu'on a tendance à croire Einstein, c'est un pur théoricien. Pas du tout. Il avait un sentiment très profond que la physique, c'est, ça parle
c'est
de,
concret.
C'est le concret, c'est le réel. Et il a passé beaucoup de temps dans les laboratoires de, avec les instruments qui étaient au Polytechnicum de Zurich, qui était un des meilleurs du monde. C'était vraiment le top de la technologie de l'époque, l'élite. Et donc là, il a eu accès à ce qu'il y avait de mieux. Et ça a été important aussi pour nourrir sa réflexion, par exemple pour le mouvement de la Terre, pour savoir si on peut mesurer le déplacement de la Terre par rapport à l'éther, par des expériences que l'on veut faire dans un laboratoire, il pensait à ça.
Alors, pendant ces années, il va rencontrer une jeune femme également qui va devenir son épouse, qui est Mileva
Maric. Donc, Mileva Maric était une remarquable jeune fille d'origine serbe. C'était l'équivalent d'une Marie Curie, disons. C'est-à-dire, à l'époque, le système universitaire rendait en général totalement impossible aux jeunes femmes douées de faire des études universitaires. Elles étaient interdites dans la plupart des universités. Il y avait, je pense qu'en France, il était impossible à une jeune femme douée de faire des études universitaires. Aucune école ne les acceptait, par exemple. Alors qu'en revanche, l'école polytechnique de Zurich était très en avance parce qu'elle acceptait les femmes exactement au même niveau, à condition qu'elles réussissent l'examen d'entrée. Bien. Et donc, il est clair que cette Mileva Maric était très intelligente. Elle a réussi l'examen d'entrée et donc elle a travaillé comme co-étudiante avec Einstein. Elle aimait la musique.
Ils avaient beaucoup de passions en commun.
Ils avaient des passions en commun et en particulier la passion de la science. Einstein parle beaucoup avec elle de ses idées. Il semble bien, contrairement à ce que certains biographes ont voulu dire, que Mileva Maric avait contribué essentiellement à la découverte des théories d'Einstein. Il semble que, sans vouloir abaisser ses dons, ça n'est pas le cas. C'était une espèce de caisse de résonance qui pouvait parler avec Einstein, qui s'intéressait à ce qu'il faisait, mais qui n'a sans doute pas contribué à la découverte des idées d'Einstein. Mais en tout cas, c'était une compagne. Ça va poser des problèmes en ce sens d'avoir une pas juive, ce qui ne plaisait pas aux parents d'Einstein, oui. Et aussi, ils ont eu, en fait, assez rapidement, en 1901, je ne sais plus exactement quand elle est née, une petite fille est née hors mariage. Donc, ils n'étaient pas mariés parce que les parents s'opposaient au mariage. Et d'ailleurs, Albert n'avait pas de poste, n'avait pas de...
Alors oui, voilà. Parce que c'est ça le problème. C'est qu'en fait, donc Einstein et Albert et Mileva sont ensemble. Albert a un diplôme, mais ne trouve pas de poste. Et Mileva, elle, n'a pas réussi le diplôme de fin d'année.
Oui,
de
la pauvre, on doit dire qu'au moment où elle devait passer le premier examen de sortie, elle a dû repartir en Serbie pour accoucher, donc ça a coupé son élan intellectuel à ce moment-là. Quand elle a repris en septembre, elle a raté l'année suivante. Il y a quelque chose qui se brise, on voit, dans la vie de Mileva. On voit aussi, il y a en fait des antécédents névrotiques dans la famille Mileva Maric. Et alors qu'au début, elle est une jeune fille gay. Einstein aussi, alors n'imaginons pas un Einstein sérieux travaillant tout le temps. Einstein était quelqu'un de profond qui pouvait travailler très sérieusement pendant des heures, mais c'était quelqu'un avec de l'humour, qui plaisantait, qui aimait sortir au café, discuter avec ses amis, être avec sa petite amie Mileva. C'était une vie
sociale,
très gaie, une vie sociale. C'est à Zurich qu'il se fait des amis pour la vie. Son ami Marcel Grossmann, qui, soit dit en passant, prenait justement, lui, c'était le bon élève qui allait à tous les cours, qui notait, prenait des notes de cours très détaillées et qu'il prêtait ensuite à Albert, comme ça il pouvait suivre ce qu'il a raté.
Albert qui séchait les cours.
Là aussi, Albert rencontre Michelangelo Besso, qui allait devenir son plus grand ami, le plus intime de toute sa vie. Qu'il rencontre à Zurich, à travers la musique, à travers aussi, enfin, passons sur certains détails, il lui procure sa femme finalement, la fille Winkler, donc des liens profonds avec ses amis pour toute la vie. Mais à la sortie de Polytechnique, même si Einstein a d'excellentes notes, certains 19 sur 20 si on convertit des choses comme ça, quand il va voir ses professeurs en physique et leur demande est-ce qu'ils ont besoin d'un assistant, comme il n'avait jamais suivi les cours et que sans doute il avait un petit air arrogant quand il les suivait parce qu'il dominait tout ça,
il savait tout,
personne ne veut de lui comme assistant et donc il a le problème qu'en 1900 il n'a pas de job, il en cherche, il est obligé d'enseigner à gauche et à droite, des choses qui durent quelques mois,
il vivote
pendant plusieurs années. Et donc, il ne peut pas se marier tant qu'il n'a pas un métier. Et ça n'arrive qu'en 1902, grâce à l'intercession de son ami, justement Marcel Grossmann, dont le père connaissait le directeur, docteur Haller, du bureau des brevets à Berne. Et donc, par l'intercession du père de son ami, on lui propose un métier d'examinateur des brevets au bureau fédéral des brevets de Berne, en Suisse. Dans l'intervalle, disons aussi qu'il avait abandonné sa nationalité allemande, ça montre aussi
oui,
son
vrai,
caractère. Il voulait tellement rejeter derrière lui toute l'Allemagne qu'il a abandonné complètement sa nationalité allemande et pendant des années, il a économisé beaucoup d'argent pour payer le droit à la nationalité suisse.
Il fallait payer.
Et donc, il fallait payer. Ça coûtait un certain argent. Et ça, il l'avait obtenu. Il avait donc la nationalité suisse. Donc, c'était normal pour lui maintenant de travailler en Suisse. Donc, à partir de 1902, là, il va pouvoir se marier. Quelques mois après avoir eu ce job.
Au bureau des brevets.
Son père, qui, dans l'intervalle, dont les affaires allaient encore plus mal et surtout la santé allait encore plus mal, sur son lit de mort, son père finalement accepte en disant, bon, tu peux te marier avec elle.
Il attendait quand même l'approbation de son père.
Oui. Et il l'a obtenu à peu près sur le lit de mort de son père, mais il l'a obtenu. Donc, il épouse Mileva quelques mois après être arrivé à Berne et elle vient s'installer à lui dans des appartements variés à Berne où ils ont un premier enfant, le petit Hermann, en 1904.
Et à Berne, au bureau des brevets, ça lui laissera un peu de temps pour travailler à côté, écrire des articles dans les annales de physique.
Oui, alors on voit en fait que les premiers articles scientifiques d'Einstein datent d'avant son arrivée au brevet vers 1902, parce qu'il avait tout de suite commencé à faire des articles. Ces articles sont moins profonds que ceux dont on va parler après, mais sont tout de même importants. Les gens remarquent que là, il y a un jeune homme qui n'est pas trivial, qui fait des choses sur la thermodynamique importantes. Donc son nom est déjà remarqué, sans doute, dans le milieu. Quand il rentre en 1902 au bureau des brevets, il doit montrer, comme ce n'est pas un métier, on ne lui donne pas un poste permanent au début, il doit faire preuve de sa capacité à faire bien son travail. Et donc, on voit que sa productivité scientifique tombe à zéro parce qu'il fait très bien son métier.
Oui.
Et assez rapidement, à partir de 1904, semble dit, il a compris qu'il pouvait faire ce que les autres faisaient dans toute une journée en beaucoup moins de temps. Et donc, il peut faire le boulot d'une journée dans une demi-journée et avoir plus de temps pour penser à ses idées scientifiques. Et c'est ça qui explique qu'en 1905, après un an de ce régime, il va pouvoir sortir en fait 5 articles dont 4 sont extrêmement importants et font de la physique du XXe siècle, alors qu'il travaillait 8 heures par jour et 6 jours par semaine, puisqu'on travaillait le samedi,
oui,
ce qui paraît absolument incroyable dans cette année 1905.
Eh bien, on marque une courte pause et on se retrouve tout de suite après pour évoquer justement ces fameux articles.
Parce qu'ils ont façonné l'histoire de nos civilisations, ils furent acteurs ou témoins de cette histoire. Leurs travaux et ouvrages nous font traverser les siècles. Historiens, philosophes, économistes, juristes et sociologues s'expriment sur Canal Académie. Les membres de l'Académie des sciences morales et politiques racontent. Retrouvez-les dans Un jour dans l'histoire, une émission de la rédaction de Canal Académie.
Retour à notre portrait d'académicien consacré aujourd'hui à Albert Einstein en compagnie du physicien Thibaut Damour. Alors nous venons de voir comment dès son plus jeune âge, Albert Einstein s'est tout de suite tourné vers les sciences. Nous allons aborder dans cette deuxième partie l'aspect le plus connu du physicien, ses découvertes révolutionnaires. Alors avant d'aborder ces fameuses découvertes et ces fameux articles, une petite correction peut-être sur le prénom.
Le prénom, oui, du premier fils,
D'Albert Einstein.
D'Albert Einstein qui s'appelait, non pas Hermann comme je l'ai dit, mais Hans Albert, qui est bien né en 1904.
Voilà. Correction faite, nous allons pouvoir continuer. Alors, avant de venir aux travaux propres d'Albert Einstein, il convient peut-être de faire un petit retour en arrière pour bien comprendre. Alors, il faut peut-être parler de l'expérience physique des Anglais Morley et Michelson, c'est ça ?
Ce ne sont pas des Anglais, ce sont des Américains.
Des Américains, pardon.
Michelson, oui, Michelson. Un très grand scientifique américain, et Morley, un chimiste américain qui a collaboré avec Michelson.
Donc en 1887, il tente une petite expérience.
Oui, alors disons... L'année. Alors, on va parler maintenant donc des travaux scientifiques d'Einstein pendant ce qu'on appelle l'année miraculeuse 1905.
Oui.
Donc, cette année miraculeuse voit en fait l'éclosion de plusieurs travaux qui sont très différents les uns des autres, qui portent sur des sujets complètement différents. L'un va être lié à l'expérience dont vous parlez, dont on va parler en détail, mais les autres n'ont rien à voir avec ça. Donc il faut pas... beaucoup de gens identifient les grandes découvertes d'Einstein à la relativité. On dit Einstein, c'est le père de la relativité,
oui, voilà.
Point. Mm. Eh bien, pas du tout. Même si Einstein n'avait pas écrit une ligne sur la théorie de la relativité, ça serait le plus grand physicien théoricien de tous les temps pour ses autres travaux hors relativité. Et donc, il faut parler aussi des autres travaux. Mais, bon, commençons par ce qui est le plus connu, la théorie de la relativité. L'expérience de Michelson-Morley est en fait seulement une expérience parmi beaucoup d'autres qui montrait qu'il est impossible, quand on est à la surface de la Terre, de détecter, en utilisant des appareils qui sont aussi autour de nous à la surface de la Terre, le mouvement de la Terre autour du Soleil. On ne voit pas, il n'y a aucune façon de détecter ce mouvement.
Ce mouvement.
C'est ça qui est surprenant, puisque on pourrait s'imaginer, comme ce mouvement est en fait assez rapide, que des expériences assez fines devraient voir qu'à l'intérieur d'une Terre comme ça, qui est en mouvement rapide, on voit des effets. En fait, c'est la même chose que l'on peut voir dans la vie de tous les jours. Si vous êtes dans un train qui se déplace à vitesse constante ou dans un avion à vitesse constante, vous pouvez vous servir un verre d'eau, un café, eh bien, ça se passe comme si le train était au repos ou l'avion était
Tout
au repos.
Fait.
Ça, c'est une idée qui avait été bien mise en avant des siècles auparavant par Galilée, le physicien italien Galilée, et qu'il avait mis une espèce de fondement de sa nouvelle dynamique, puisque comme Galilée voulait affirmer la théorie de Copernic et non pas la théorie de Ptolémée, c'est-à-dire le mouvement de la Terre autour du Soleil, se pose immédiatement le problème. Tout le monde disait, mais non, il est absurde de penser que la Terre tourne autour du Soleil, parce que si elle tournait aussi vite que ça, on s'en rendrait compte. Un oiseau qui quitterait son nid ne retrouverait plus son nid parce que
son nid serait
parti à grande vitesse, etc. Et donc Galilée avait compris que les choses sont plus subtiles que ça, parce qu'il donnait déjà l'exemple de physiciens qui sont à l'intérieur d'un bateau, dans la soute d'un bateau, et qu'on ne voit rien de particulier. Si on n'ouvre pas le hublot pour voir si le bateau bouge, en fait, on ne peut pas se rendre compte à l'intérieur. Donc c'est cette idée-là. Je dis ça parce que beaucoup de gens disent que c'est l'expérience de Michelson-Morley qui était essentielle. Non, l'expérience de Michelson-Morley était une des expériences les plus précises qui ont confirmé cette idée de Galilée, qui est que le mouvement est comme rien, comme disait Galilée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se rendre compte de l'intérieur de quelque chose qui bouge, qu'on est en train de bouger, à condition que ce mouvement soit en ligne droite et à vitesse constante.
En fait, l'œil humain ne peut pas rendre compte de la réalité.
Il y a un, on reparlera de la réalité plus tard. Effectivement, il y a les images théoriques que l'on peut se faire sont parfois surprenantes et certaines choses que l'on se dit qu'on devrait détecter immédiatement ne sont pas détectables ou sont des illusions. Ça fait partie de ce débat-là. Donc, toutes ces idées qu'on ne peut pas se rendre compte du mouvement de la Terre, beaucoup de physiciens à l'époque ou de mathématiciens qui travaillaient dessus essayaient de développer des théories pour expliquer ça. Alors, peut-être on peut essayer de résumer la contribution originale d'Einstein par rapport aux autres.
Oui.
Alors, les autres, c'est qui? Les autres, c'est par exemple le Hollandais Hendrik Lorentz et le Français Henri Poincaré, qui ont travaillé tous les deux... En essayant de développer certaines équations mathématiques pour essayer de décrire pourquoi, quand on est sur une Terre qui se déplace et qu'on fait une expérience d'optique, on échange de la lumière entre plusieurs miroirs qui vont à gauche et à droite, on ne se rend pas compte que la Terre bouge. Et la plupart de ces scientifiques, Lorentz, Poincaré, etc., en général, ils voulaient démontrer ça à partir d'une image microscopique de la réalité. C'est-à-dire, pour eux, il fallait expliquer pourquoi on ne voyait rien. Et un des points essentiels pour Einstein, c'est que lui, il dit non pas « je vais essayer d'expliquer pourquoi on ne voit rien », je vais postuler que l'on ne voit rien, c'est-à-dire je vais supposer comme axiome numéro 1 que l'on ne voit rien.
On
part de ce
rien.
Principe, qu'il appelle principe de relativité, et qu'il prend en un sens plus fort que d'autres, comme Poincaré par exemple, parce qu'il dit c'est mon point de départ, c'est un axiome de départ. Et quelqu'un comme Lorentz disait mais qu'est-ce que c'est que ça? Nous on essaye de le démontrer, et Einstein vient et suppose que c'est vrai, mais donc il n'a rien prouvé. Donc déjà, l'état d'esprit d'Einstein est très différent, et ça choquait un peu les autres. Mais surtout, le deuxième point, c'est qu'en faisant ça, Einstein se rend compte qu'il faut modifier profondément les concepts habituels d'espace et de temps, et surtout le concept de temps. Puisque même si à l'époque, d'autres personnes, et à commencer par Poincaré, disaient que sans doute il y avait des subtilités avec l'idée comment synchronise-t-on des horloges sur une Terre qui bouge par rapport au cas où la Terre ne bougerait pas, même si les gens disaient « il y a peut-être des subtilités », quand on en venait au fin fond de ce que l'on écrivait, tout le monde pensait le temps comme Galilée et Newton, des siècles auparavant, nous avaient appris à penser le temps. Le temps universel. C'est-à-dire une espèce de grand pouls cosmique, comme si toute la réalité était quelque chose qui vivait un seul temps universel.
Vibrait à la même seconde.
Ce même rythme universel était le même pour tout le monde. Et tout le monde avait cette image, mais absolument, vraiment collée au fond des neurones, absolument inconsciente, et ne pouvait pas en sortir. Même quand on voit des gens écrire des équations comme Poincaré, on voit qu'ils pensent le temps à l'ancienne, à la Newton, même s'il écrit des équations différentes. Alors que Einstein a été le premier à, comme il était jeune, révolutionnaire, et qu'il ne croyait pas aux acquis tout faits, il était prêt à remettre en cause tout ce que les gens prenaient comme intouchable. Lui dit non, il faut changer le temps. Et plus précisément, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, eh bien, si vous avez deux horloges qui, au départ, de même constitution, qui donc battent à la même seconde et indiquent le même temps, si une de ces deux horloges part à grande vitesse très loin et puis revient, quand elle revient, elle ne marque pas le même temps.
Voilà, c'est la fameuse théorie des jumeaux de Langevin, c'est
oui,
ça ?
Qui en fait a été développée d'abord par Einstein, parce que quelques années plus tard, en 1911, et après Langevin l'a repris aussi en 1911, Einstein fait une comparaison biologique. Il dit ça peut être des organismes vivants dont on parle, parce que l'idée des jumeaux de Langevin, c'est-à-dire il y a un voyageur humain dans un boulet et un autre humain qui reste sur Terre, ou l'idée de deux jumeaux, disons deux clones même, donc la même personne en double exemplaire, dont l'un part très vite et revient. Et
part dans l'espace, très loin, la
très
vitesse
vite.
Pratiquement de la lumière,
oui.
Donc une vitesse très, très élevée.
Et revient. Et bien que ça soit des jumeaux qui vivent la vie de la même façon, quand ils se rencontrent, il y en a un qui est beaucoup plus vieux que l'autre, celui qui est resté sur Terre. Et ça, ça doit être choquant.
Le temps est ralenti quand le premier qui est parti revient. Le temps était ralenti pour celui-ci.
Pour celui-ci. Mais ça veut dire que donc la notion de temps universel commun à tout le monde ne peut plus tenir, puisque chacun n'a pas eu, celui qui est parti n'a pas eu le sentiment du tout que le temps était ralenti. C'est pas qu'en voyageant, il se disait « Oh, mon pouls est lent », etc. Le temps s'écoulait pour lui toujours de la même façon, mais quand il revoit son frère, il n'a pas le même âge. Donc ça, seul Einstein, en 1905, affirme ça. Et physiquement, il dit que ça, c'est testable expérimentalement, et il écrit tout un formalisme mathématique qui dit il faut prendre comme principe nouveau de la nature l'idée que ce que j'ai dit, qu'on ne peut pas détecter le mouvement d'un système en déplacement, donc ce qu'on appelle principe de relativité, et que comme conséquence de ça, la lumière va toujours à la même vitesse dans toutes les directions, etc. Et il développe tout un formalisme mathématique dont des parties avaient déjà été écrites par d'autres, dont Poincaré, mais dont l'essence physique est vraiment due à Einstein. Donc ça, c'est un des travaux essentiels d'Einstein en 1905, c'est la création de la théorie de la relativité. Une conséquence de ce travail auquel il pensera quelques mois plus tard, puisque là nous sommes fin juin 1905 quand il écrit cet article, pendant l'été il se dit « Ah, une conséquence de cette théorie de la relativité, c'est la fameuse formule que tout le monde a vue sur des t-shirts, E égale mc2 ».
Qui veut dire énergie égale masse multipliée par
le carré de la vitesse de la lumière. C voulant dire vitesse ou célérité de la lumière, et c2 le carré de cette célérité. Mais au-delà de l'équation mathématique, il faut bien voir que cette équation, elle ouvre quelque chose de complètement nouveau, parce que depuis des siècles, on avait une idée de la matière comme quelque chose de pérenne, quelque chose d'absolument stable. On se souvient qu'à l'école, on disait la phrase de Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Mais ce qui voulait dire que dans toutes les transformations chimiques de la matière, il y a quelque chose qui est absolument constant, qui est toujours là. C'est la substance même de la matière, sa quantité de matière, sa masse.
Or, à partir d'un choc thermique, la masse va changer.
Oui, donc ce que dit cette équation, c'est que la masse qui apparaît dans le membre de droite de cette équation, dans mc2, est égale dans le membre de gauche à l'énergie. Or, l'énergie, c'est quelque chose qui n'est pas du tout considéré comme étant fixé dans une forme une fois pour toutes. C'est quelque chose que l'on peut changer en, par exemple, effectivement, dirigeant un rayon de chaleur de la lumière ou de la chaleur sur un corps. On peut faire augmenter sa température et donc son énergie. Et dans ce cas-là, Einstein dit sa masse augmente. Donc, c'est comme de dire la matière n'est plus constante, puisqu'on peut changer si on appelle masse quantité de matière. Donc, ça veut dire que le concept de matière identifié à ce qui est la substance pérenne change complètement. Ça ouvre aussi quelque chose en sens inverse, qui est de se dire, mais si la matière, la masse n'est que de l'énergie, peut-être que la masse peut disparaître et se transformer en énergie. Et déjà, dans son article de 1905, Einstein dit, mais c'est peut-être ce qui se passe en radioactivité. Et aujourd'hui, toute la physique moderne a complètement confirmé cette relation d'Einstein et surtout a confirmé l'idée que la masse, la matière autour de nous, n'est pas du tout quelque chose de constant, puisqu'il semble que toute la matière dont nous sommes faits,
oui.
Elodie et
oui,
moi ici,
Thibault-Amour.
Et tous les objets ici autour de nous, sont en fait sortis de la lumière du Big Bang, c'est-à-dire qu'à un certain moment, dans le Big Bang Show, il n'y avait pas de masse au sens des particules qui sont autour de nous, il y avait un rayonnement très intense, de la chaleur, et c'est de cette chaleur que s'est concrétisé ces petits, ce qu'on appelle les particules matérielles au sens habituel, relativement stables. Et donc, ça donne une idée complètement différente de la matière, cette relation.
Alors justement, donc vous le disiez tout à l'heure, c'est que cette formule E égale MC2, on la voit partout, mais à cette époque, c'était vraiment une révolution de pouvoir écrire ça.
Oui, c'était une révolution, mais en même temps moins importante que les autres révolutions de cette année-là. Parce que parlons maintenant rapidement des autres travaux d'Einstein qui sont encore plus révolutionnaires. Le premier travail d'Einstein concerne en fait les débuts de ce qu'on appelle aujourd'hui la théorie quantique et concerne la structure de la lumière.
Voilà, au départ on pensait à la lumière comme étant une onde.
Oui, en particulier grâce aux travaux du français Augustin Fresnel au début du 19e siècle, Fresnel avait montré par des expériences dont certaines avaient été faites aussi par l'anglais Young que quand vous faisiez se superposer deux rayons de lumière, donc vous ajoutez de la lumière et de la lumière, vous attendriez a priori s'il y a plus de lumière, donc ça sera encore plus lumineux, et bien pas du tout, qu'il y avait des franges noires, des zones noires quand vous ajoutiez de la lumière à de la lumière. Et son interprétation c'était de dire mais la lumière c'est comme les ondes, c'est-à-dire le mouvement d'oscillation à la surface de l'eau.
Comme
et quand
vague.
Vous avez des vaguelettes qui se superposent, eh bien, si les mouvements des vaguelettes vont dans le même sens vers le haut, disons, ça fait une vaguelette plus haute. Mm-hmm. Mais si vous avez une vague vers le haut qui se superpose avec une vague vers le bas, elle se compense et l'eau reste tranquille.
Ça l'annule.
Voilà. Et donc, des ondes, quand elles se superposent, peuvent donner des zones où il n'y a pas de vibrations et des zones avec des vibrations amplifiées. Et donc, comme les expériences avaient montré que la lumière se conduisait exactement comme ça, tout le monde en avait conclu que la lumière devait être une onde. Ensuite, les Anglais Faraday et Maxwell ont développé toute une théorie de la lumière comme étant liée au champ électrique et au magnétique se propageant dans l'espace. Et ils avaient démontré par des calculs, puis Hertz avait vérifié par des expériences à la fin du 19e siècle qu'effectivement tout ça marchait, que la lumière était en plus non pas n'importe quelle onde, mais une onde dite électromagnétique, comme celle que l'on a aujourd'hui pour la radio, la télévision, les portables, etc. C'est bien connu aujourd'hui, mais c'était relativement nouveau au 19e siècle. Donc, au début du 20e siècle, il était évident pour tout le monde que la lumière, c'est une onde, et c'est une onde électromagnétique, et donc c'est quelque chose de continu qui se répand dans tout l'espace, que la densité d'énergie qui est à l'intérieur de cette lumière est partout dans l'espace. Et Einstein, 26 ans, au début de l'année 1905, dit « Eh bien, pas du tout, je fais l'hypothèse heuristique, c'est-à-dire pour voir ce que ça donne, mais il donne des arguments pour ça, que la lumière est faite en fait de petits grains d'énergie, des petits paquets d'énergie. »
Qui sont des photons.
Qui vont devenir après les photons, qu'à l'époque il appelle des quantas de lumière, simplement. Et ça, c'est une hypothèse qui est totalement révolutionnaire et totalement absurde pour les autres.
Alors comment fait-il pour le prouver ?
Alors, il ne le prouve pas rigoureusement, mais ce qu'il fait, c'est qu'il considère une cavité fermée avec des parois réfléchissantes dans laquelle il y a une certaine quantité de lumière et de chaleur. Et là, ce problème avait été étudié pendant tout le 19e siècle par beaucoup de physiciens, expérimentalement et théoriquement, en particulier par Planck, mais théoriquement aussi par Wien avant lui. Et les gens avaient une certaine idée théorique de, dans cette chaleur qui est à l'intérieur d'un four, disons, pensons à l'intérieur d'un four très chaud, aux parois comme ça, rouge, s'il est chauffé au rouge, il y a de la chaleur qui est là. La question est, cette chaleur, comment est-ce qu'elle est répartie en fonction de la couleur de la lumière? C'est-à-dire, on voit le four rouge parce que l'essentiel de cette énergie, elle est dans le rouge. Mais il y en a tout de même à plus haute fréquence et donc vers une fréquence blanche, bleue, etc. ou à des fréquences plus basses, c'est-à-dire le pourpre. Donc la répartition de la chaleur à l'intérieur d'un four en fonction de la longueur d'onde et de la fréquence, c'était le problème qu'on avait beaucoup travaillé et on avait une première réponse. Einstein part de cette réponse mathématique et l'interprète avec ses connaissances de thermodynamique économique qu'il avait développé en 1902 avant ses premiers travaux. Oui. Et en interprétant ça et en disant, mais si je calcule ce qu'on appelle l'entropie, c'est-à-dire le degré de désordre associé à cette répartition de chaleur, je trouve que c'est le même que si la lumière était faite de photons, de grains de lumière. Et il a le courage de dire, mais ça veut peut-être dire qu'on peut interpréter la lumière comme fait de grains de lumière, alors que tout le monde considérait que c'était absurde. Donc il avait tout de même des arguments, mais pas des preuves. Et après, il dit, mais si c'est vrai, cette hypothèse, j'en déduis des conséquences et je peux par exemple expliquer l'effet photoélectrique.
Voilà, par exemple, l'effet photoélectrique, puisque un autre physicien fait un constat particulier, c'est qu'avec la lumière rouge, il n'y a pas d'effet photoélectrique.
Oui, donc l'effet photoélectrique découvert par Hertz, étudié par Lennard et d'autres, s'était rendu compte que l'effet photoélectrique, rappelons pour nos éditeurs, que c'est quand vous entrez dans un supermarché, c'est ce qui fait que les portes s'ouvrent tout seules devant vous, parce qu'il y a des cellules photoélectriques qui envoient un faisceau de lumière, mais votre corps interrompt ce faisceau, et donc l'effet photoélectrique permet de savoir que vous l'avez interrompu. Et permet de faire beaucoup de choses dans la vie moderne. Einstein, on connaissait l'effet photoélectrique, mais il était très mystérieux et on ne connaissait pas les lois mathématiques qui le décrivaient. Einstein, comme conséquence de son hypothèse révolutionnaire sur les quantas de lumière, écrit une loi très précise pour ça, et cette loi, les physiciens vont tenter de la vérifier expérimentalement pendant une dizaine d'années, et ils vont réussir à la vérifier, en particulier les Américains, et à leur grand dent d'ailleurs, parce qu'ils vont dire, mais j'étais tellement convaincu que cette hypothèse était absurde, que j'ai tout de même fait des expériences pour montrer qu'elle était fausse, mais en fait les expériences ont montré qu'Einstein avait raison. Et Einstein a eu le prix Nobel en fait pour cette découverte.
Parfois, le prix Nobel était en 1922.
Pour la découverte des lois en 1922, enfin au titre de l'année 1921, et pour la découverte des lois de l'effet photoélectrique et ses autres contributions à la physique théorique. Et en fait, parfois les gens disent, mais pourquoi Einstein n'a pas eu le prix Nobel pour la théorie de la relativité? Il y avait très peu de tests expérimentaux de la théorie de la relativité à l'époque, alors qu'il y avait eu beaucoup de tests en laboratoire des lois de l'effet photoélectrique, et c'était une découverte sans doute plus révolutionnaire d'Einstein. Donc finalement, c'est très bon prix Nobel.
Alors maintenant, actuellement, les travaux d'Albert Einstein servent encore pour les physiciens comme vous, par exemple, qui travaillaient sur les trous noirs. Par exemple, cette fameuse théorie E égale MC2 sert encore actuellement.
Oui, alors brossons très rapidement les tableaux des autres travaux d'Einstein.
Oui, pardon.
Puisque... si on a un peu de temps maintenant pour finir sur l'ensemble des travaux d'Einstein, disons tout de même que Einstein a créé les grandes théories de la physique du XXe siècle. Alors, on vient d'évoquer la théorie de la relativité sous sa première forme, celle de 1905.
Oui.
10 ans plus tard, Einstein généralise cette théorie à une théorie qui modifie la structure de l'espace et du temps de façon encore plus profonde en liaison avec la présence de masse qui crée la gravitation, et c'est ce qu'on appelle la théorie de la relativité générale, qui donne ce qu'on appelle une nouvelle image de l'espace-temps déformé par la présence de matière en son sein. Donc ces deux théories, théorie de la relativité restreinte et relativité générale, sont essentielles dans la physique actuelle. On a dit que par l'hypothèse du photon, du quantum de lumière, Einstein a été un des contributeurs essentiels de la théorie quantique, puisque c'est le germe. Les autres travaux d'Einstein en 1906, puis après en 1917, 1924, et en fait beaucoup d'autres travaux d'Einstein, ont approfondi la théorie quantique de façon remarquable. Einstein est vraiment l'un des pères de la théorie quantique, et aujourd'hui, la théorie quantique, c'est l'autre pilier avec les théories de la relativité,
oui,
de la physique moderne, et donc Einstein est un des pères fondateurs de la théorie quantique, encore plus que Max Planck, contrairement à ce que l'on croit parfois. Et disons pour finir aussi que pendant l'année 1905, Einstein a fait d'autres travaux qui ont joué un rôle très important pour la France, qui sont sur ce qu'on appelle le mouvement brownien, c'est-à-dire l'agitation de grains de pollen dans un liquide quand ce liquide est plus ou moins chaud, puisque ces travaux ont conduit à la première preuve de l'existence des atomes. Einstein a fait ces travaux pour prouver que les atomes existaient, puisque le gros problème de la physique du début du XXe siècle, c'est que les atomes étaient une hypothèse, mais beaucoup de gens rejetaient cette hypothèse parce qu'on ne les voyait jamais, les atomes.
On n'avait pas la preuve.
On n'avait pas la preuve. Et tout le monde pensait qu'on n'aurait jamais la preuve parce que les atomes sont tellement petits qu'au niveau macroscopique, on ne verrait jamais rien. Et Einstein a été le premier à comprendre qu'on pouvait voir les choses par des phénomènes qu'on appelle de fluctuation, c'est-à-dire que les valeurs moyennes que l'on voit à notre échelle sont une valeur moyenne, mais elle n'est pas constante, elle fluctue un peu autour de la moyenne. Et donc, si on regarde de près certains phénomènes, on peut voir qu'il y a des choses qui bougent, des fluctuations, et en particulier, ces grains de pollen dans l'eau, ils doivent bouger parce qu'il y a des atomes qui les cognent à tout moment. Et il a écrit des lois quantitatives. Ces lois quantitatives sur le mouvement de ces grains de pollen, le mouvement brownien, a été vérifié pendant les travaux de Jean Perrin en France.
Oui.
Langevin a fait une théorie plus raffinée aussi de ça, et tout ça a conduit à un prix Nobel pour Perrin et à la confirmation complète des travaux d'Einstein là-dessus. Et pendant des années, Einstein a été le plus connu par ses travaux-là. Par exemple, les travaux les plus cités d'Einstein étaient ses travaux sur le mouvement brownien.
Juste deux minutes pour aborder très brièvement les travaux des physiciens aujourd'hui qui se servent encore des théories d'Albert Einstein qu'il a pu mettre au jour.
Oui, donc disons clairement que Einstein a inauguré toutes les théories du XXe siècle, les grandes théories de la physique fondamentale du XXe siècle, et que on ne l'a pas encore dépassé. C'est-à-dire, dans la vie de tous les jours de tous les physiciens, surtout les physiciens théoriciens, les outils conceptuels de base que l'on utilise aujourd'hui pour décrire et comprendre l'univers sont les outils qu'a forgé Einstein essentiellement. Donc, la théorie de la relativité générale sert aujourd'hui à décrire l'univers macroscopique, l'univers cosmologique, comme l'on dit, du Big Bang à la formation des trous noirs. D'ailleurs, c'est Einstein lui-même, en 1917, qui a fait le premier modèle cosmologique global de l'univers, qui est une révolution extrêmement importante. C'est la première description mathématique de l'univers global comme une entité dynamique, donnée par Einstein en 1917. Donc, il a créé toute la cosmologie en 1917. Et depuis, on a vérifié dans le détail que la théorie d'Einstein décrit très bien l'évolution cosmologique et aussi ce qui se passe au voisinage d'objets très denses comme des étoiles mortes, comme des étoiles à neutrons qui tournent l'une autour de l'autre, ou des trous noirs dont on n'a pas encore complètement prouvé l'existence, mais qui sont des objets théoriques que l'on pense exister. Et ça, c'est pour le niveau macroscopique. Au niveau microscopique, Einstein a été donc l'un des initiateurs de la théorie quantique. Et d'ailleurs, remarquons qu'il a été aussi, en 1917, c'est lui qui a créé le concept qui est à la base d'un des concepts les plus importants à l'heure actuelle, qui est le concept de laser. C'est-à-dire, il a découvert le phénomène d'émission stimulée, qui est à la base du laser. Et en 1924, ne connaissant pas les travaux de Louis de Broglie, il a été aussi le premier à affirmer l'existence d'une dualité entre matière et lumière, en faisant la théorie de ce qu'on appelle les condensats de Bose-Einstein, ou qui sont du Einstein et pas à Bose dans ce cas-là, et qui sont devenus très importants, qui ont donné lieu à plusieurs prix Nobel récemment. Donc, la physique microscopique quantique doit beaucoup à Einstein, même si, à partir de 1925, 26, 27, Einstein se détourne de l'interprétation que la plupart des physiciens veulent donner à la théorie quantique parce que ça lui semble insatisfaisant, et il va devenir un critique de la théorie quantique par ses travaux importants avec Podolsky et Rosen en 1935. Et en fait, pendant longtemps, les gens ont dit « Oui, Einstein, il comprend plus rien, il critique ça, mais c'est parce qu'il est vieux.
» Il devient sénile.
Voilà, il devient sénile. On s'est rendu compte après tout que pas du tout, qu'il avait touché un point sensible et qu'il avait compris une structure très importante qui n'a été mieux dégagée qu'après lui par quelqu'un comme John Bell et qui a été vérifiée dans de très belles expériences, dont celle d'Alain Aspect. Et donc, même les travaux de la dernière partie de la carrière d'Einstein, puisque aussi, disons rapidement, que en une seconde, alors que
oui.
Après sa vie à Berne, où il a découvert la théorie de la relativité restreinte, les débuts de la théorie quantique, il a eu après, à partir de 1909, des postes académiques de professeur à Zurich, Prague, puis retourne à Zurich.
Oui, effectivement, il est parti
partout. Voilà, à Berlin, il s'installe. En revanche, à Berlin, de 1913-14 à 1933. Et là, c'est là où il se pose pendant un moment, où il découvre la théorie de la relativité générale très importante. En 1933, en revanche, il fuit l'antisémitisme et le nazisme. On lui offre d'ailleurs une position au Collège de France, à Paris. Il hésite, il accepte d'ailleurs, mais finalement, il accepte une autre position. Il ne prend pas celle au Collège de France, qui est à l'Institute for Advanced Study de Princeton.
Oui.
Et il passe les 20 dernières années de sa vie, de 1933 à 1955, il est mort le 18 avril 1955, oui, à l'Université de Princeton, où il continue ce que les gens pensaient être un rêve, c'est-à-dire il essaye d'unifier toute la physique, ayant créé ces morceaux de la physique qui paraissaient incompatibles, c'est-à-dire la théorie quantique qui dit que la lumière est faite de grains, comme ça, séparés, et la relativité générale qui dit qu'au contraire, tout est champ réparti continuellement, que l'espace, le temps et toutes les autres forces sont, semble-t-il, réparties continuellement comme des champs dans l'espace et dans le temps. Il y avait incompatibilité entre les deux et il essaye de résoudre cette incompatibilité. Et ce rêve d'Einstein, pendant longtemps, les gens ont dit « mais ça n'a aucun sens, c'est pas comme ça qu'il faut faire, il est hors du coup ». Aujourd'hui, les dernières théories de physique fondamentale autour de la théorie des cordes ressuscitent ce rêve et disent que finalement, certaines des idées d'Einstein deviennent maintenant importantes.
Il était avant-gardiste.
Et sont réalisées à l'intérieur de la théorie des cordes, même si c'est sous une forme très différente de ce qu'Einstein rêvait. Mais ça montre que même dans les voies d'Einstein, où on a dit pendant longtemps que c'était une erreur ou une voie de garage, il avait une intuition profonde qu'il y avait un problème important et que la physique, un jour, reviendrait vers ce problème.
Bien, on marque une seconde pause, Thibaut Damour, avant de se retrouver pour évoquer cette fois-ci l'intérêt que porte Albert Einstein à la philosophie.
Chaque lundi, les académiciens de l'Académie des sciences morales et politiques se réunissent dans la salle des séances de l'Institut de France. Ils écoutent une communication sur un thème choisi.
Pour les séances de l'année 2006, le président de l'Académie, Monsieur André Damien, a choisi le thème de la justice.
Sur Canal Académie en séance, vous permettra d'entendre, entre autres intervenants, Henri Amouroux sur la justice du peuple en 1944.
Maître Jacques Vergès, la passion de défendre.
La justice, thème de réflexion de l'Académie des sciences morales et politiques pour l'année 2006.
C'est chaque semaine dans En séance sur Canal Académie.
Retour à notre troisième partie de notre émission En habit vert consacrée à Albert Einstein, toujours en compagnie de Thibaut Damour, professeur à l'Institut des hautes études scientifiques. Alors après avoir évoqué longuement les travaux d'Albert Einstein, les travaux importants pour toute la physique actuelle, la physique du XXe siècle, nous allons évoquer l'aspect philosophique, en tout cas l'intérêt que portait Albert Einstein à la philosophie. Et vous nous proposez, Thibaut Damour, de lire une citation d'Albert Einstein.
Oui, pour introduire l'intérêt d'Einstein, il a écrit en 1930 la chose suivante. La plus belle expérience que nous puissions faire est celle du mystère de la vie. C'est le sentiment originaire dans lequel tout art et toute science véritable prennent leur source. Savoir que ce qui nous est impénétrable existe réellement et se manifeste à travers la plus haute rationalité et la plus rayonnante beauté, raison et beauté qui ne sont accessibles à notre entendement que dans leurs formes les plus primitives, ce savoir et cette intuition constituent la vraie religiosité, et c'est en ce sens, et seulement en ce sens, que je puis me considérer comme un esprit profondément religieux.
Alors voilà, on va pouvoir aborder justement ce thème-là de la religion. Albert Einstein est scientifique et comme beaucoup de scientifiques, il a une vision particulière de la religion. Il ne croit pas en un dieu anthropomorphe.
Non, il a une vision qui, pour faire bref, on peut appeler spinoziste, du divin, c'est-à-dire qu'il pense et il considérait que la recherche scientifique, qui est la recherche d'une description rationnelle de la construction de la réalité physique autour de nous, est une quête qui engage l'essence métaphysique de l'homme. C'est quelque chose qui était essentiel pour lui, mais qui ne donnait pas accès à une autre personne face à soi, mais simplement à la preuve de l'existence d'une rationalité. Il a toujours considéré que l'essentiel, pour un physicien comme lui, c'était de croire qu'il y a de la rationalité. Sinon, on ne peut pas faire de physique si on pense que tout est aléatoire et chaotique.
Bien sûr.
Mais il n'a jamais voulu théoriser ça sous la forme d'un dieu personnel. Par exemple, il disait finalement pour les enfants, Dieu c'est un vertébré gazeux. Et ça ne l'intéressait pas. Il considérait que la vision d'une religion traditionnelle était très limitée. Donc il se faisait une très haute idée du divin, qui est plus compliqué que ce qu'on pourrait appeler le panthéisme, qui est un spinozisme matiné de physique théorique. Et en tout cas, ça a été une force, un guide important dans sa recherche. Et un autre aspect très important, c'est que pour Einstein, la physique n'était pas quelque chose de séparé du reste de sa vie. la physique, l'interrogation philosophique, l'interrogation métaphysique et le plaisir de la musique, la joie que vous donne la musique, était tout un, sa personnalité était riche et multiple. Et quand il avait obtenu des résultats scientifiques ou qu'il étudiait ceux des autres, il prenait au sérieux la science. Parce que certains physiciens disent, bon, la science nous dit ça, mais tout ça, c'est que des équations et ça n'a rien à voir avec le réel. Je veux garder mes vieilles idées, ma religion traditionnelle ou ma vision purement matérialiste, etc. Einstein avait une vision plus subtile et par exemple, il interprétait ce que la théorie de la relativité nous disait sur le temps, on en a parlé brièvement, oui. Mais il le prenait au sérieux, puisque la plupart des gens, après la théorie de la relativité, disent, bon, la relativité écrit des équations où le temps change, mais dans la vie de tous les jours, le temps existe, allons, nous vieillissons tous, et donc ce temps universel, tout le monde en parle aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle du Big Bang, mais tout le monde dit, oui, mais le Big Bang s'est passé il y a 15 milliards d'années, comme si ce temps universel existait. Alors qu'Einstein, lui, prenait au sérieux la physique, et il disait à son ami intime, Michele Besso, mais tu ne prends pas assez au sérieux la physique, tu crois au temps, tu crois qu'il existe un maintenant, mais comme il lui a dit de façon répétée dans plusieurs de ses lettres, Einstein ne croyait pas au temps qui passe. Il pensait que le temps est une illusion, que le passage du temps est une illusion. Et la plus belle description de ça, c'est dans la lettre de condoléance qu'il écrit à l'occasion de la mort de son ami intime Michele Besso. Il écrit à sa famille et il leur dit...
Alors voilà, vous avez une petite citation.
Une autre. Il leur dit « Voilà qu'il m'a de nouveau précédé de peu en quittant ce monde étrange. Cela ne signifie rien. Pour nous, physiciens dans l'âme, la séparation entre passé, présent et avenir ne garde que la valeur d'une illusion, si tenace soit-elle. » Donc cette phrase forte veut dire que ce que tout le monde prend comme évident, c'est-à-dire que le temps passe, nous vieillissons, que le passé n'existe plus, que le passé est mort, que seul le présent existe, mais que ce présent coule tout le temps et que le futur n'existe pas encore, il dit non, tout ça est illusion. Puis pourquoi ? Parce que la théorie de la relativité nous dit qu'il y a un bloc espace-temps, et dans ce bloc espace-temps, on ne peut pas définir le maintenant, on ne peut pas définir l'instant présent. Il n'y a pas de flux, il n'y a pas de passage, tout est donné une fois pour toutes. Et Einstein vivait ça profondément. Et il est assez étonnant qu'aujourd'hui, pratiquement aucun philosophe ne s'intéresse plus à ça, à ce que la physique a à nous dire sur le temps. À l'époque d'Einstein, Einstein a discuté avec le grand philosophe Henri Bergson quand il est venu en 1922 à Paris, et ils ont discuté sur le temps. D'ailleurs, Bergson avait même écrit un livre à ce moment-là, qui a été publié peu après le passage d'Einstein à Paris. Et dans ce livre, Bergson dit « Ma conception du temps comme une espèce de flux, comme la durée, m'oblige finalement à épouser l'image traditionnelle du temps comme passage, du temps universel. » Et il en concluait que dans les deux jumeaux de Langevin dont on parlait avant, quand le jumeau revient de son voyage, eh bien, il doit avoir le même âge que son frère, parce que sinon, s'il n'avait pas le même âge, ça serait un choc trop violent pour le concept habituel de temps. Or, c'est faux. On sait expérimentalement maintenant, Bergson ne le savait pas parce qu'il n'y avait pas d'expérience qui avait vérifié l'expérience des jumeaux à son époque, donc il avait le droit de penser ça, mais en tout cas, on sait aujourd'hui que c'est faux, que pour certaines particules élémentaires ou des horloges atomiques, elles ne marquent pas le même temps. Mais à l'époque, quand Einstein venait à Paris en 1922, tous les journaux titraient « Le temps n'existe pas, Einstein à Paris ». Marcel Proust s'intéressait, qui écrivait les derniers chapitres du temps retrouvé, les réécrivait, s'intéressait aux idées d'Einstein, disait « Ah mais il y a des liens entre la pensée d'Einstein et la mienne », se tenait au courant. L'intelligentsia de l'époque considérait que ce que Einstein nous disait sur la physique devait nous intéresser tous parce que ça concerne l'espace et le temps. Et il est assez triste de constater qu'aujourd'hui, où on a confirmé que les idées d'Einstein s'appliquaient parfaitement au monde réel, eh bien, en général, ce problème philosophique-là n'intéresse plus grand monde.
Alors justement, aujourd'hui, dans la vie quotidienne, comment ça s'applique ?
Alors donc, indépendamment des images philosophiques qui n'ont pas changé, en revanche, la physique einsteinienne a beaucoup de conséquences dans la vie de tous les jours. On devrait, tous les jours, si vous écoutez un compact disque, par exemple, vous devriez penser que le phénomène laser qui marche là-dedans a été conçu pour la première fois par Einstein en 1917, en tout cas l'essence qui permet le phénomène laser. Si vous entrez dans un supermarché et que les portes s'ouvrent automatiquement devant vous, devriez penser que c'est l'effet photoélectrique dont les lois ont été écrites par Einstein en 1905 qui permet à ça de s'ouvrir. Si vous regardez la télévision En fait, avec un tube cathodique à l'ancienne, les électrons se déplacent à une fraction de la vitesse de la lumière et il faut les équations de la dynamique relativiste pour décrire correctement ce qui se passe. Si vous subissez un examen médical par tomographie, par émission de positrons, eh bien, E égale MC2 joue un rôle essentiel puisque un électron négatif et un électron positif s'annihilent dans votre corps et donnent lieu à deux quantas de lumière d'Einstein. Si vous prenez un taxi qui se dirige ou dans une ville en utilisant le système GPS ou un avion
même
qui atterrit, le système GPS, Global Positioning System, dont l'Europe est en train de faire une version dite Galileo, ce système-là, ne marcherait plus après une minute et demie si on n'avait pas inclus dans le logiciel la théorie de la relativité restreinte et générale d'Einstein qui ferait que vraiment ça ne marcherait plus au bout d'une minute, ce qui est très frappant.
C'est vrai qu'en finalement, toutes les théories, toutes les recherches d'Einstein s'appliquent dans la vie de tous les jours, dans tout
oui,
et n'importe quoi.
Elles n'ont pas été faites pour les applications, mais c'est un exemple parmi bien d'autres que la physique fondamentale finalement à des applications à notre vie quotidienne.
Merci Thibaut Damour d'avoir passé une heure avec nous, une heure passionnante pour connaître un peu plus la vie d'Albert Einstein. Merci de nous avoir accompagnés.
Merci à vous de m'avoir invité.
Merci aux auditeurs de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement pour une nouvelle émission en habit vert. Merci, au revoir.